Bienvenue. Si, si, si. Si, si, parce qu'il y en a quand même derrière. Hein. Là, c'est un peu resserré. Bonjour tout le monde. Alors, voilà. Eh bien, Monsieur Cérone arrive en même temps. Eh bien, voilà. Monsieur Cérone arrive. J'ai même pas eu le temps de préparer sa rentrée. Non, j'ai bien compris que c'était pas...
Bonsoir. Ah, c'est bien, parler bien fort parce que les oreilles, j'en ai...
Ah ben, de toute façon, alors... Alors, pour tout vous dire, ça fait 2 mois que je prépare ce moment. Je rencontre Monsieur Cérone un peu intimidé tout à l'heure. Et moi, je prépare des questions. Comment je vais faire? Il me dit, ah non. Alors, il me prend la main comme ça. Il me dit, non. Après, et on fera live en direct. Donc, je pense que ce que j'avais préparé, on va le faire autrement.
Mais pas du tout, allez-y.
Si. Alors, je vais lancer, moi, la première question. Et ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, je vous donne le micro, parce que c'est ça aussi, les rencontres exclusives. Si vous avez un mot, si vous voulez échanger avec Monsieur Cérone, c'est le moment ou jamais. Là, on est à 2 mètres, pour le plus loin, à 3 mètres. Si vous avez une question à poser à Monsieur Cérone, eh ben, je vous donnerai le micro. Alors, ma première question.
En deux mots, c'est le moment.
C'est le moment. Alors, comment vous allez, là, après ce set, Monsieur Cérone?
Je vais bien. Après 1h30 de m'être amusé comme un gosse, devant un public magnifique, tout va bien, et vous?
Moi, j'étais enchanté. Enchanté. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai vécue. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y en a certains aussi qui ont eu leurs premiers émois musicaux, finalement, avec vous. Et je pense que tout ce que je suis, en termes de musicalité... Eh ben, c'est vous qui avez mis les fondations. Et donc, encore maintenant, s'il n'y a pas une grosse basse, s'il n'y a pas une grosse batterie, un son un peu disco, un peu d'électro, des violons, ben, j'ai moins de plaisir. Donc,
mais quand vous parlez d'émotion, tout à l'heure, je vous ai dit après. Parce que avant que je passe sur scène, j'ai toujours d'émotion. Et souvent, on me dit, oh, t'exagères, après 50 ans. Vraiment, j'ai toujours une demi-heure de trac avant de monter sur scène. Et je me suis et c'est la vérité, hein, et je me suis toujours dit, le jour où j'ai plus le track, j'arrête de jouer.
Donc là, vous avez eu le track tout à l'heure?
Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on me parle, je suis dans mon monde, qu'est-ce que je vais jouer, est-ce que je regarde le public, est-ce que je vais jouer tel titre ou tel titre, j'ai un répertoire qui est assez grand.
Oui, un peu, oui.
Donc je me cherche, est-ce que tout va marcher, est-ce que je vais être bon, comment est le public, et j'aime pas qu'on vienne me demander des questions... mais après, j'adore. Alors, quelle est la question?
Alors, moi, je dirais, est-ce que quelqu'un... Ah ben voilà, on va commencer tout de suite. Avec monsieur, donc, qui est sportif, cycliste, maillot jaune.
Bonsoir, monsieur Cérone. Tout d'abord,
vous pouvez me dire Marc, hein, on est entre nous, là.
Alors, bonsoir Marc, Lionel, enchanté. Tout d'abord, bravo. Et j'avais une question. Oui, effectivement, vous avez commencé votre set par « Je suis musique ». Moi, je voulais vous dire que vous êtes plus que la musique, vous êtes le pionnier de la French Touch. Et ça, est-ce que vous vous en rendez compte aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, surtout quand on connaît vos débuts, qui étaient quand même très américains, mais en France, vous n'étiez pas forcément tant reconnu qu'aujourd'hui, vous avez enfin la consécration, notamment avec les JO.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? J'ai démarré ce soir, je suis musique, pas pour dire je suis musique. C'est parce qu'il y a des cuivres qui pètent un peu. J'avais envie de démarrer un peu en fanfare. Mais je peux très bien démarrer sur autre chose. J'ai toujours été attiré par la musique anglo-saxonne. Très peu par la musique française, bien que j'aime plein d'artistes français que j'aime. Mais que je regarde un petit peu comme un fan. Mais musicalement, je suis pas fait pour. Ça m'a pas empêché de travailler avec quelques jeunes artistes françaises, comme dernièrement avec Christine de Queen, par exemple. Merveilleux artiste, personnage, mais merveilleux artiste. Et la musique anglo-saxonne me parle mieux, c'est-à-dire que même quand il y a des textes, moi dans mes titres, j'utilise souvent les voix qui chantent, un peu comme des instruments, pour que ça s'intègre. C'est pas les musiciens n'accompagnent pas le chanteur, c'est ce qui est la différence avec la musique pop. Alors à l'époque, en plus, comme j'étais batteur, j'ai mis la batterie en avant. C'était pour moi d'une logique. Si j'avais été saxophoniste, j'aurais mis des saxes partout. Ça me paraissait logique. Les gens ne comprenaient pas trop, mais bon, comme je ne pensais pas du tout que ça allait marcher, que j'allais en vendre deux, je m'en foutais, j'ai mis la batterie en avant. Ce qui est très drôle aujourd'hui, que ce soit de la pop, que ce soit n'importe quel style de musique aujourd'hui, la rythmique est très très en avant. Ça me fait un peu sourire des années où on m'a appelé le bûcheron. On ne comprenait pas comment on peut faire des titres de 16 minutes. C'est pas fait pour passer en radio, mais je m'en fous des radios. Moi, je refuse de faire de la musique pour les autres. Je fais de la musique. Si on accepte, bon, bah. Heureusement, les temps ont bien changé et j'ai eu raison.
Alors, je voudrais.
Sans aucune prétention.
Je voudrais rebondir sur deux points que monsieur a évoqués, qui faisaient partie de mes questions. Est-ce que vous avez senti un avant, un après avec les Jeux Olympiques où on vous a vu dans le
monde
entier?
Oui, bien sûr.
À quel niveau?
Surtout au niveau de la France. Pas au niveau du public. Ouais. J'ai trouvé que le public était d'ailleurs, ça m'a fait un plaisir fou, plus de mon côté à dire aux médias « Ah, enfin, vous le reconnaissez ouais. ». C'est un peu de reconnaissance. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de prix dans ma vie, que ce soit des Grammy Awards, que ce soit des Légions d'honneur, que ce soit des... Mais les JO ont un petit truc assez spécial. J'ai vraiment l'impression que c'est le public qui est vraiment venu vers moi.
Il y a toute une génération qui vous a découvert finalement.
Vous savez, je crois que ça a battu tous les records, ma tante dit, Shazam. Vous savez ce que c'est Shazam?
Oui.
Et je crois qu'on a fait plus de 10 milliards de...
C'est fou. C'est des chiffres.
C'est la preuve qu'en 50 ans du titre Supernature, le nombre de personnes qu'on fait « Mais je connais ça !»« Comment c'est ? Qui c'est ça ? Comment ça s'appelle ?» C'est des petites jouissances personnelles qui m'ont fait vraiment plaisir. Ouais. Maintenant, depuis les JO en France, oui, les médias, d'un seul coup, se sont mis un peu à rattraper le temps perdu. Pourquoi ? Peut-être parce que je les ai beaucoup ignorés, que j'ai fait sans eux.
Oui.
Mais je règle pas de compte. Hein. Je m'en fous.
Il y en a deux, trois qui l'ont mal vécu quand même.
J'ai eu la chance d'avoir des chemins constamment, des beaux projets qui sont venus à moi où j'ai essayé d'être à la hauteur. On appelle ça des opportunités. Et j'ai toujours cherché à être à la hauteur d'opportunités. Hein. Il ne suffit pas de la reconnaître. Et je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est allé chercher les coups. Mais plus être à la hauteur des coups qui venaient à moi, si vous comprenez un peu la différence.
Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une question à monsieur?
Thierry, merci. En fait, je voulais savoir, depuis la création de Love in C Minor, est-ce qu'il y aura un titre avec le même culot que Love in C Minor qui pourrait arriver?
Est-ce que quoi, pardon?
Il y aurait un titre avec le même culot de Love in C Minor qui pourrait revenir aujourd'hui?
On ne sait pas. Si vous voulez, de refaire ce que j'ai déjà fait, non.
Non, mais dans l'esprit.
J'en sais rien. Je suis vraiment quelqu'un de spontané. Je suis autodidacte et je me suis fait sur le chemin. Vous imaginez en 50 ans le nombre de modes que j'ai entendu passer, que les maisons de disques m'ont dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oui, d'accord. Mais j'ai jamais fait. Non, j'ai toujours tenu mon chemin. Et je sais pas. On va fêter les 50 ans au mois de septembre de Love in C Minor. On va bien trouver les moyens de faire une belle fête quelque part. Quelque chose, j'imagine.
Bienvenue, installez-vous.
Mais je prends un grand plaisir de le faire en symphonique. Par exemple, c'est jeudi ou vendredi, je crois. Je fais dans les arènes de Vienne. Je fais en symphonique. Et ça, c'est mon beau plaisir. Et quand je vais vous raconter comment c'est venu... on a un peu de temps. Hein.
Ah, on a le temps. Incroyable.
Il y a 3-4 ans, la ville de Nice est venue m'approcher pour me dire qu'ils ont un concept qui s'appelle C'est pas classique. Et qu'ils ont repris le catalogue de Gainsbourg, de Bowie et de Prince. Super. Et on aimerait bien reprendre votre catalogue en symphonique. Ça m'a pas paru illogique, puisque j'ai beaucoup de titres très orchestrés. Donc j'ai dit oui, le temps que les choses se fassent, il se passe des mois, et ça. Et au bout de trois mois avant la date arrivant, je crois que ça, c'était le 3 novembre, ça s'est passé au Nikaya, un très gros zénith à Nice. Au mois de septembre, je commence à voir mon chef d'orchestre, on va faire ci, on va faire ça, commencer à découper mes titres et répéter. Et là, je me retrouve d'avoir un fait accompli, je me dis, comment je fais avec Supernature ? Supernature, c'est un titre pur électro. Je ne vais pas avoir mes musiciens, 50 musiciens sur scène qui se regardent le bras et qui me regardent, qui se croisent les bras et qui me regardent. Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je me suis laissé aller. J'adore Hans Zimmer, par exemple. Donc, je ne dirais pas que je l'ai pompé, mais je me suis bien inspiré. Et puis, je me suis laissé aller, comme j'ai toujours fait dans ma carrière. Et j'ai fait Supernature en symphonique. 10 jours avant le concert de Nice, on m'appelle, on me dit Victor Lemaine, directeur de la musique des JO, aimerait te rencontrer. Avec grand plaisir qu'il vienne à mon studio. Moi, là, je n'ai pas le temps. Je suis en pleine répète. Il vient me voir pour me dire qu'ils allaient intégrer un de mes titres, Give Me Love, dans les JO. Super et tout. Mais bon hein, super. Bravo, merci. Et là, il me dit, c'est quoi tes projets maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et je raconte l'histoire des symphoniques. Tout de suite, le mec fait, comment tu fais, Supernature ? Et c'est là où je lui dis, je raconte l'histoire. Bah écoute, je me suis laissé aller, il me dit, comment ça sonne ? Je fais, j'en sais rien. On va voir. Ça se trouve, je vais me faire jeter. Je suis pas sûr du tout. Il me dit, je peux écouter ? Je fais, t'es sûr ? Ok, je lui fais écouter. Et là, il a les yeux écarquillés et il me dit, mais putain, tu peux me faire une copie ? J'ai une idée, je peux pas t'en parler, mais j'ai une idée. Je lui fais écouter en entier. Et encore, même au milieu du titre, je vous promets, je baisse mon petard. Je me dis, je vais l'emmerder, ça dure 10 minutes, 9 minutes 40. Je baisse le petard. Il me dit, non, vas-y. Je lui fais une copie, il s'en va. Le lendemain, je pense plus à lui. Je pense à Nice, mon symphonique que je vais faire. Je fais mon symphonique, super succès. 15 jours après le symphonique, juste avant Noël, un peu comme le Père Noël avec sa hotte, il m'appelle, il me fait, il faut qu'on dîne ensemble, j'ai un truc à te dire, je peux pas te le dire comme ça, faut que je te le dise. On dîne, et là il me raconte, tout ça pour vous dire en version courte, c'est comme ça qu'est arrivé les JO. C'est là où il m'a dit, il a fait, mais c'est pour les JO ça. Alors après il l'a proposé, j'imagine, le nombre de titres qu'il devait y avoir sur la liste, fallait que ça passe au comité des sports, au comité à l'Élysée, puisque le président avait son mot à dire. Et à l'unanimité, ça a été Supernature choisi. Ce que je vous disais tout à l'heure, excusez-moi de vous donner des longues réponses, l'opportunité, c'est ça qui m'a toujours guidé et d'essayer d'être à la hauteur. Voilà. Je vous ai tout dit, je vous laisse.
Encore un peu de temps. Est-ce que quelqu'un qui vient d'arriver un petit peu souhaiterait poser une question à Monsieur Cerrone ?
Oui, bonsoir Monsieur Cerrone.
Bonsoir.
Félicitations pour le set en grande qualité que vous nous avez donné.
Merci, c'est grâce à vous.
Merci. Je dois dire que j'ai été quand même un petit peu surpris parce que je pensais que vous auriez pu nous faire un petit solo de batterie. Mais je crois que votre batterie, vous l'avez pas laissé à la Cité de la Musique à Paris.
Alors, pour vous dire la vérité, je me suis jamais accroché aux choses dans la vie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'accrocher. L'âge venant. La batterie, c'est très physique. La dernière fois que j'ai fait symphonique, c'était il y a à peu près un an, au Philharmonie à Paris. J'ai souffert, c'est très difficile. J'ai des tendinites qui arrivent, là j'arrive, et je me dis, j'ai pas à prouver que je sais encore jouer de la batterie à mon âge. Je préfère offrir au public, que ce soit en live, que ce soit en DJ. On fait un voyage d'une heure et demie ensemble, ce que j'espère qu'on a fait ce soir.
Bien sûr.
C'est un peu mon but. Et c'est toujours ça qui m'a guidé. J'ai jamais eu de choses qui m'ont dit si je fais ça, je vais être bien ou je vais être bon.
Oui, excusez-moi, j'ai juste une deuxième petite question. Quand j'ai réécouté vos premiers albums, c'est Cerrone 1, 2, 3, si je me rappelle bien, et notamment Supernature. Alors, si on remet dans le contexte, c'est le disco, hein, fin années 70, et j'ai trouvé quand même que, si on écoute le disco côté américain, qui était très influencé, enfin, on va dire c'est plus du son qui vient de la soul, du funk, avec des arrangements de cordes, et vous arrivez avec Supernature, qui est quand même un son électronique, avec beaucoup de synthé, est-ce que c'est pas osé pour l'époque
Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Déjà, Supernature, c'était mon troisième album. Hein, il y a eu Love in C Minor, il y a eu Paradise. Et la disco, à l'époque, c'était pas un... C'est devenu un style. Pendant longtemps, surtout les Français, surtout les médias français, on pensait que c'était une mode. Ils ont compris aujourd'hui que c'était c'est un vrai style musical, c'est pas une mode. Et en fait, dans les années 75, les discothèques n'existaient pas. On appelait ça des nightclubs. Les gens sortaient dans les nightclubs pour aller écouter les hits qu'ils écoutaient en radio. C'était le plaisir qu'ils avaient du moment. On y faisait la même chose, on picolait, on draguait, mais on écoutait les hits qu'on entendait en radio. Et moi, j'ai commencé à écouter des apports qui arrivaient des États-Unis, de grossistes, qui sortaient même pas dans les grosses maisons de disques. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien d'avoir des longues plages longues, orchestrées. Il y avait des voix, mais les voix, elles n'étaient pas partie prenante, quoi. C'était pas des chansons. Et on a été un groupe de pas nombreux, 4, 5, 6 mecs, producteurs. Il y a eu George Moroder, Nile Rodgers, moi-même, Coulomb de Gang, Larry Dunn avec Earth, Wind & Fire. On a été 5-6 à commencer à composer et produire des tracks, ce qu'on appelle, pour les endroits de discothèque. Au même moment est arrivé le Studio 54, Studio 54, où j'y ai traîné de nombreuses soirées. Et ensuite, je me souviens d'ailleurs dans ces soirées, vous savez, comme ça existe encore aujourd'hui, dans des carrés VIP, dans des clubs. Et quand on a des gens un petit peu connus, bah, le mec de la boîte, il vous met dans le carré VIP. Et moi, je me souviens de cette époque d'avoir échangé beaucoup de nuits, beaucoup de discussions avec Warhol, Gauthier, Good, il y avait Batia, on était tous de la même génération, la même époque, tous des tarés. Warhol, on disait, mais c'est pas de l'art, c'est du négatif qui... Good, il coupe sa nana en tranches, c'est pas de l'art. Et l'autre avec sa batterie, là. Mais on se provoquait. Alors là aussi, on est d'une période, les années mid-70s, il y avait un truc dans l'air, il fallait tout faire pour éviter de ressembler à l'autre. Ça a bien changé, cette période. On était dans l'anti-formatage et c'est tout ce mélange. Il y a eu aussi Donc dans ces clubs, le Studio 54 arrivant, il y a eu le Palace en France, un peu partout dans le monde, il commençait à s'ouvrir des lieux où on venait vraiment écouter de la musique. Et rentrer là-dedans la communauté gay, qui leur a permis l'exubérance qu'ils aiment, et maintenant qu'on aime tous. Mais à l'époque, c'était pas facile, quoi. Tout ce mélange a mis un peu des lieux et de la musique, et un peu en marge de tout ça. Après, les maisons de disques ont tout loupé. Ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris tous leurs artistes locaux. Alors, en France, on en a eu beaucoup, et je ne fais pas de jugement. Hein. Il y a eu Dalida, il y a eu Claude François, il y en a eu plein, qui ont fait leurs chansons pop avec des arrangements disco. Mais ce n'est pas de la disco, c'est des chansons arrangées en style disco. Les DJ, d'ailleurs, à qui je dois beaucoup, 50 ans, qui m'ont remixé, samplé des tonnes de fois. Je ne sais même pas tout ce qu'ils ont fait. Quelquefois, j'écoute des trucs comme « Tiens, je ne l'avais pas entendu. Oh, c'est sorti il y a 30 ans. Hein, je ne l'ai pas entendu. » Et en tout cas, eux n'ont pas fait d'amalgame. Ils ont vraiment perçu ce style qu'ils font aujourd'hui. C'est comme ça qu'est arrivée la house, la techno, l'électro, enfin tout ce que... Le DM, tout est sorti de là-dedans. Et aujourd'hui, c'est ça qui en sort. Donc je vous dis, ça n'a pas été comme ça, ça s'est fait, ça s'est construit.
Alors moi j'ai une question.
Encore une fois, désolé d'être long dans ma réponse.
Non, c'est super, vraiment, ça sert à ça, c'est les rencontres exclusives, c'est vraiment pouvoir...
Non, profitez pas, ne me posez pas 15 questions. Hein.
Non, je vous en... Alors il y en aura 3-4 à la fin, je vous garantis. C'est vous qui me donnez le tempo, hein, de toute façon.
Allez, 15 minutes.
15 minutes, très bien, c'est noté. Est-ce que vous pourriez... Alors, on a parlé justement qu'à votre époque, tout le monde voulait être différent. Là, effectivement, on a l'impression que tout est en train de se lisser un
petit
peu.
C'est une impression pour vous ?
Non, c'est pas une impression. Malheureusement, je suis dans le design et je peux vous dire que c'est en train de se lisser vers le bas. J'aurais voulu avoir deux points de votre part. Si vous étiez fan de quelqu'un dans la musique depuis tout le temps ou depuis récemment, qui est cette personne ? Et j'aurais bien voulu avoir votre retour sur justement 70 ou 80% des plateformes qui sont détenues maintenant par de l'IA, avec de la musique qui est générée pas humainement. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus.
Alors moi, fan aujourd'hui, c'est difficile. Moi, j'ai été bercé par les styles dont je viens de vous expliquer. C'est Pink Floyd, Chicago, tous ces groupes et ces artistes, Bowie, ou même Bowie, chanteur pop, mais c'est pas de la pop. C'est comme si on vous disait que de la musique, de la pop avec des guitares qui distorsent, on appelle ça du rock. Non, c'est pas du rock. C'est un esprit. C'est difficile de vous expliquer ce que c'est qu'un esprit. Aujourd'hui, quel artiste qui me resterait en tête? Oh, Jackson, oui.
Oh, je suis enchanté que vous me disiez ça.
Ouais, Jackson, ah, je pense. que j'ai eu la chance de croiser, de travailler dans son studio. Oh, j'ai produit
tout à l'heure, vous m'énervez, hein, je peux vous dire. Entre Andy Warhol, Basquiat, gens que vous avez croisés, et là, Michael Jackson, hein, je suis vraiment
Michael, on était dans la même maison de disques. Quand j'ai fait la Vinci Minor, j'ai essayé d'avoir un contrat dans une maison de disques. J'ai fait les sets qu'il y avait à l'époque. On m'a tous jeté. Un m'ont dit, faites-les des versions courtes pour les radios. L'autre m'ont dit, changez le batteur, il joue pas bien. Bref, j'ai pas réussi. Donc j'ai fait fabriquer quelques vinyles et que j'ai donné à des grossistes, un petit peu pour en donner un peu dans les magasins, dans les drugstores qu'on appelait à l'époque, pour en mettre deux là, trois là. Mais j'avais aucune idée d'en vendre vraiment. C'était simplement pour donner un peu la vie à mon album. J'avais décidé d'arrêter la musique, de toute façon c'était fini, allez j'arrête, ça va pas où j'ai envie, donc là tout le reste j'ai pas envie de le faire, donc j'arrête. Et en fin de compte c'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les grossistes aux États-Unis c'est parti. Et les Américains ont cherché à me joindre, sauf que bien évidemment quand j'ai fait ce vinyle, je l'ai fait fabriquer en Angleterre pour avoir derrière « Printed in England », pour faire croire que c'était un import. D'ailleurs, des grossistes me disaient, t'es sûr que t'as l'exclu de ça parce que ça commence à vendre. Je dis, oui, c'est moi qui ai l'exclu, ça vient d'Angleterre. Je les ai signés. Et ils m'ont cherché en Angleterre, ils m'ont pas trouvé, évidemment. Et en fin de compte, ça a commencé à monter. Et c'est étonnant parce que ça m'a donné, ça m'a ouvert les voies. C'est-à-dire que je voulais pas faire de concessions déjà, j'en avais pas fait, je le prouve. Quand on fait un titre de 16 minutes 30, c'est pas pour croiser les doigts pour passer en radio. Mais ça m'a ouvert les voies. Paradise, c'était encore pire. Et du coup, Supernature, donc la maison de disque était ravie, les deux albums avaient cartonné. Ils attendaient le troisième. Je leur ai fait Give Me Love, comme ça ils étaient contents, ils avaient un titre qui allait... Mais je leur ai dit, non, moi, je veux que ce soit Supernature. Ils m'ont dit, Supernature, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu parles de quoi dedans? On s'en fout. Et c'est quoi des synthés? C'est quoi? Même le terme synthé, on cherchait ce que ça voulait dire. Mais ça m'a toujours plu. C'est grâce aux États-Unis, ça. Parce que si j'avais été dans une maison de disques française, jamais personne ne m'aurait laissé faire. Et ils ont bien fait, les Français, d'avoir cette attitude, parce qu'ils m'ont laissé... En fait, je suis resté producteur indépendant. J'ai toujours mon catalogue à moi et du coup, j'ai pas fait de concessions. Et quand, vous savez, dans une carrière, il y a des périodes, des fois il y a plus de soleil, des fois il y a moins de soleil. Bah, quand il y avait moins de soleil, grâce à ce que j'ai pu gagner, quand il y en avait beaucoup, bah, ça m'a permis de pas changer, de faire des gros spectacles. Je suis parti pendant 15-20 ans, j'ai produit des gros événements à travers le monde, j'adorais faire ça. Même s'il y a des sponsoring et si et ça, et qu'on gagne sa vie, c'est pas comme avoir une grosse carrière. Mais en fin de compte, tout cette... je crois une fois de plus, je me répète, hein, je suis un opportuniste.
Ah, super, hein, super. On peut applaudir, oui, c'est vrai. On peut applaudir. Deux questions avant que moi je pose mes dernières questions. Alors, deux questions. Monsieur.
Avant que j'aille dîner mon hot dog.
Et parce on que aura un peu de temps
avis,
aussi.
J'ai un avion à 22h30, c'est ça. Hein.
Et on pourra faire quelques photos avec Monsieur Cérone à la fin, oui, bien sûr.
Monsieur Cérone, merci. Je suis un très grand fan. Merci pour ce moment. Je voulais juste savoir si vous aviez l'intention un jour de faire de mix. Vous l'avez fait au Nikaya à Nice, mixer du classique avec de la musique électro. Est-ce que vous l'avez fait avec du rock?
Bah, c'est pas trop mon truc, le rock. C'est pas trop mon truc. J'ai eu la chance d'inviter beaucoup de Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. Il a joué dans mon album 4 qui s'appelle Rocket in the Pocket. Donc j'ai eu beaucoup d'arrangements de cuivre dans ce que vous entendez d'un mec qui est le tromboniste d'un groupe qui s'appelle Chicago. qui est devenu maintenant l'un des plus grands arrangeurs de cuivre, qui a fait tout Earth, Wind & Fire, qui a fait tout Jackson, donc avec qui j'ai travaillé pendant des années. Mais de là à faire leur style, non, moi j'ai mon style. Et ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait du style disco, moi j'ai pas cherché à faire du style disco, j'ai pas cherché à faire un style. J'ai fait mon style, c'est mon son. Après, ça s'est collé parce que les gens ont reconnu que ça venait d'un certain horizon culturel. Mais j'ai jamais cherché à faire un style, j'ai jamais cherché à avoir le son d'un tel. Si je voulais, et encore aujourd'hui, si je veux avoir un son très précis, ben je vais chercher l'original. J'ai la chance de pouvoir le faire. Je vais demander à un tel, tu ne veux pas venir faire un solo comme j'ai adoré un groupe qui s'appelait Toto. Et on s'est croisés dans un club à Los Angeles. Le lendemain, le bizarre, ben qu'est-ce que tu fais là? On s'est croisés la veille dans un club et en fin de compte, ils étaient dans le même studio. Et bah, du coup, j'ai viré tous les musiciens que j'avais. Du coup, je leur ai dit, vous venez avec moi, on fait l'album ensemble. On a fait l'album ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Encore de l'opportunité.
C'est incroyable, c'est incroyable. On va terminer avant de pouvoir signer quelques autographes et faire des photos. J'aimerais vous poser rapidement 2-3 questions. Si vous aviez un souvenir à partager avec nous, un souvenir que je pense que le commun des mortels ne pourrait pas connaître. Si vous aviez un regret que vous vouliez partager, ou si vous n'en avez pas, et si vous avez une anecdote incroyable, alors, vu les personnalités que vous avez rencontrées, vous pouvez parler de notre rencontre aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit incroyable comme anecdote, mais...
Quelle serait la personne?
Alors, pour la première, un souvenir que vous voulez partager avec nous, ensuite un regret, si vous en avez, et ensuite une anecdote incroyable.
Un souvenir à partager avec vous. Bah, je crois qu'on vient d'en créer un ce soir. On a un souvenir. On a passé 1h30 ensemble. Un souvenir que je ne voudrais pas vous dire. Bah, si je ne veux pas vous le dire, je ne vous le dirai pas. Non, et je n'ai pas de regrets. Je crois que j'ai quand même la chance.
Je m'en doutais.
J'ai quand même la chance d'avoir eu la vie. Je suis un musicien. Je sais d'où je viens. J'ai les pieds au sol. Je suis un banlieusard de Vitry, j'avais un père cordonnier, j'étais pas du tout fait pour ce métier. À la batterie, en plus, c'était pas facile. Comment voulez-vous que je ne puisse pas apprécier la vie que j'ai eue et qu'à mon âge, je continue à avoir, donc pourvu que ça dure.
Bon, bah, très bien, je pense qu'on peut applaudir M. Cérone, vraiment. Mais je vous remercie beaucoup pour l'échange, votre sourire, votre énergie. C'est incroyable, je suis enchanté d'avoir fait votre rencontre.
Comment ne pas avoir de l'énergie quand on fait 4 fois par semaine, disons 3 fois de moyenne, la période d'été c'est un peu plus chaud, quand on rencontre 10, 50 000, 70 000 personnes qui sont là à vous regarder et d'apprécier ce que vous faites, comment ne pas, faut être maso, c'est pas possible, évidemment, c'est ça l'énergie. Tant que j'aurai ça, pas besoin de Botox, pas besoin de cure thermale.
C'est très drôle, ça. C'est très drôle. Mais écoutez, je vous remercie. Alors, voilà. Si vous souhaitez, si c'est possible de faire quelques photos avec vous, moi, j'ai pris quelques vinyles que je vais faire dédicacer. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir eu la même idée.